Bienvenue sur l'espace audio de Sororifam Endométriose. Aujourd'hui, nous accueillons le témoignage de Loïs. Loïs, âgée de 29 ans, a été diagnostiquée pour l'endométriose il y a un an. Ses premières douleurs apparaissent à 24 ans après l'arrêt de la pilule. Elle souffre d'abord de troubles digestifs, puis urinaires. Au travers de son parcours, Loïs aborde les thèmes de l'errance et des violences médicales, des traumatismes qui ont marqué son corps et sa mémoire. C'est avec vulnérabilité et sincérité que Loïs nous partage son vécu ainsi que ses différentes expériences avec le corps médical.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Loïs et aujourd'hui j'ai souhaité témoigner sur mon parcours avec l'endométriose, entre autres, pour déjà dans une démarche militante, parce que je pense que c'est important que les gens réalisent à quel point le parcours avec l'endométriose peut être compliqué et difficile, se rajouter à la maladie et rajouter des difficultés pour la personne, notamment le parcours médical et l'errance médicale. Et aussi parce que j'ai longtemps été en errance et même une fois le diagnostic posé, ça m'a fait énormément de bien de rencontrer des personnes avec un parcours similaire, de voir que j'étais pas seule. Et donc le but aussi de ce témoignage, c'est pour les personnes qui pourraient se reconnaître dans le témoignage, voilà, de faire en sorte qu'elles se sentent moins seules et qu'elles voient que les parcours similaires existent. Donc pour me présenter, donc j'ai 29 ans, bientôt 30. Je souffre d'endométriose, mais également d'un trouble dysphorique prémenstruel. Donc très rapidement, le trouble dysphorique prémenstruel, pour expliquer ce que c'est une forme extrême de syndrome prémenstruel, on pourrait dire, qui est caractérisée par la prédominance des symptômes psychologiques, on peut dire comme ça, c'est-à-dire une humeur dépressive, des épisodes dépressifs en fait très très forts, avec énormément d'anxiété, des crises d'angoisse, une impossibilité de contrôler ses émotions, voilà, et associé aussi souvent, dans mon cas c'est le cas, aux symptômes physiques habituels du syndrome prémenstruel, c'est-à-dire ballonnement, seins douloureux, douleur, fatigue, etc. Donc c'est aussi un trouble qui est un petit peu compliqué dans son parcours, dans son diagnostic, puisqu'il est assez, même très méconnu, peut-être même encore plus que l'endométriose. Et pourtant, il touche au moins 5% des personnes menstruées, et encore c'est une estimation, donc c'est certainement plus. Et voilà, donc tout comme le syndrome prémenstruel, ça se manifeste, comme son nom l'indique, juste avant les règles. Et je suis aussi atteinte de problèmes de thyroïde qui sont en cours de diagnostic, donc malheureusement je suis encore un peu en errance médicale et ces polypathologies, c'est quelque chose je pense qui est assez courant chez les personnes souffrant d'endométriose, c'est-à-dire que j'ai l'impression autour de moi que c'est assez fréquent, qu'on souffre pas que de l'endométriose, et donc je pense que c'est aussi très important dans le vécu du parcours et dans aussi la prise en charge. Ça rend souvent la prise en charge encore plus complexe et ça peut aussi créer beaucoup d'incompréhension pour l'entourage, etc. qui sont des sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans ce témoignage. Donc par rapport à mon diagnostic, donc pour revenir plus en détail sur l'endométriose, j'ai été diagnostiquée donc en décembre 2021. Enfin, j'ai commencé à être diagnostiquée parce que là encore, on a l'impression que c'est quelque chose de simple, on pose un diagnostic tel jour et puis après voilà, c'est fini, on a le diagnostic. Mais dans mon cas, ça a été un parcours plutôt long, de plusieurs mois même pour la confirmation du diagnostic. Donc ça a été fait par IRM, donc cette IRM a montré des signes d'endométriose, notamment au niveau ovarien, et des signes d'endométriose profonde. Je dis des signes, c'est important parce que ce qu'on voit sur mon IRM, c'est pas forcément des vraies lésions très franches. Et c'est souvent le cas, même souvent on voit rien. Et ça c'est très important aussi parce que ça vient justement compliquer le diagnostic et la prise en charge. Mais dans mon cas, les signes étaient suffisamment évocateurs, en plus des signes cliniques, pour ensuite avoir le diagnostic qui a été confirmé par un spécialiste de l'endométriose, donc un gynécologue. Mais beaucoup, beaucoup de temps après, enfin plusieurs mois après, en fait 6 mois après, donc le diagnostic en réalité il a duré plusieurs mois avec beaucoup d'incertitudes entre le moment où on m'a un peu lâchée dans la nature avec cette IRM qui avait été prescrite par ma généraliste et le moment où j'ai vraiment pu voir un spécialiste qui a pu m'expliquer les images, qui a pu me confirmer, etc. Ça a été très violent aussi, c'est-à-dire qu'on m'a rien dit en fait suite à mon IRM, on m'a laissé partir et j'ai reçu le compte-rendu après par mail et en fait j'étais toute seule face à ça et ma généraliste qui m'avait prescrit l'examen pouvait pas m'en dire beaucoup plus que ce qui était écrit puisque c'était pas du tout sa spécialité. Et sinon avant ça, avant ce diagnostic, j'ai eu une errance qui a duré plusieurs années, 4 ou 5 ans je dirais, puisque j'ai commencé à avoir mes premiers symptômes, oui c'est ça, 4 ans, puisque j'ai commencé à avoir mes premiers symptômes en 2017, même si en réalité, avec le recul, je me rends compte que j'avais des symptômes bien avant, mais qui étaient, avec lesquels je ne faisais pas forcément le lien, des choses un peu disparates, comme des douleurs sciatiques, des douleurs de dos, des problèmes digestifs, etc. Et où je ne faisais pas forcément le lien avec mes règles et tout. Ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est aussi important, c'est aussi pour ça que je voulais témoigner, c'est que j'ai pris la pilule très 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 tôt. Donc en fait, j'ai eu peut-être 1 an de règles naturelles avant de prendre la pilule. Et ensuite, j'ai pris la pilule pendant 10 ans, pardon. Donc de mes 13 ans à peu près jusqu'à mes 23, voire même 24 ans. Et justement, je pense que ça a masqué l'endométriose. Et c'est quand je l'ai arrêtée que tous les symptômes ont commencé à arriver. Progressivement, parce que après plusieurs années de pilule, il faut que le corps se remette à fonctionner à son rythme et du coup les symptômes ils sont pas apparus tous en même temps et c'est ça aussi qui a été très compliqué dans mon diagnostic. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir pris la pilule très très jeune sans vraie raison d'ailleurs et du coup bah ça peut à la fois ça peut peut-être aider à freiner l'évolution de la maladie mais en même temps ça masque aussi beaucoup la maladie. Donc moi j'avais pas ce symptôme caractéristique des règles extrêmement douloureuses. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi de faire le lien, même moi-même, de faire le lien avec quelque chose de gynécologique parce que ça a commencé à se manifester vraiment par des gros, gros troubles digestifs. Donc, j'ai été diagnostiquée d'abord par un gastro-entérologue avec un syndrome d'intestin irritable, colopathie fonctionnelle, c'est la même chose. Et voilà, sans plus d'informations, pareil, on m'a un peu laissé dans la nature en me disant ben, on peut rien faire, faites attention à ce que vous mangez et c'est tout. Donc, pareil, en fait, pendant toutes ces années d'errance, c'était énormément d'abandon de la part du corps médical. Et c'était toujours, vous n'avez rien de grave, aux analyses, il n'y a rien. Donc c'est des choses, soit c'est dans votre tête, en gros, le classique. Voilà, vous êtes quelqu'un stressé, c'est le stress, ça fait des troubles digestifs. C'est des troubles fonctionnels, donc ce qu'ils appellent les troubles fonctionnels, donc fait des choses qu'ils ne savent pas vraiment expliquer ni prendre en charge. Donc pareil, j'ai développé aussi des troubles urinaires, et là c'était pareil, c'était, il n'y a rien, votre vessie elle est bien à l'échographie, on ne voit rien, donc c'est certainement quelque chose de fonctionnel, de l'ordre de cystite interstitielle ou vessie douloureuse, des choses comme ça. Qui sont pourtant des pathologies réelles et très invalidantes, mais pour eux ça nécessitait pas d'aller plus loin à partir du moment où il n'y avait pas de choses très évidentes aux examens. Pour eux voilà, c'était des choses fonctionnelles qui relevaient éventuellement de la kiné, de l'ostéo et même pour beaucoup de la psychiatrie. Donc ça on me l'a beaucoup dit, on m'a beaucoup dit qu'il fallait que je vois un psychiatre, on m'a beaucoup balancé que j'étais dépressive alors que pas vraiment, que c'était à cause de mon terrain anxieux, etc. Et à aucun moment en fait on m'a demandé si c'était exacerbé en période de règles, à aucun moment on a fait le lien avec ce désir en fait. Et j'ai commencé aussi à avoir pas mal de troubles gynécologiques au fur et à mesure, à avoir des douleurs pelviennes aussi. Mes règles ont fini par être douloureuses aussi au bout d'un moment, sauf qu'entre temps j'avais fait poser un stérilet en cuivre pour ma contraception. Et en fait on me disait c'est normal les règles douloureuses avec le stérilet. Donc une fois j'ai carrément fini aux urgences parce que j'avais vraiment une douleur insoutenable le premier jour de mes règles.
Et on m'a dit, ah, mais c'est normal, le stérilet au cuivre, ça rend les règles très douloureuses. Donc moi, à l'époque, je faisais confiance aux médecins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, c'est leur métier, ils doivent savoir, donc j'ai pas forcément questionné davantage, même si ça me paraissait quand même fou, quoi.
Mais malgré ce qu'on me disait, que c'était normal, etc., moi je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et plus mes symptômes se multipliaient, parce que j'ai aussi commencé à développer du coup mon trouble dysphorique prémenstruel qui était un petit peu présent sous pilule, mais de manière tellement fugace que je m'étais pas vraiment rendu compte. Et quand j'ai arrêté la pilule, bah, au bout de plusieurs cycles, il y a ça qui a commencé à s'installer. J'ai fini par faire le lien là pour le coup avec mes règles. Et donc j'ai réussi à avoir un diagnostic pour ça assez rapidement en allant voir un gynécologue spécialisé, parce que j'avais vraiment identifié les périodes que c'était systématiquement prémenstruel, les moments où ça allait pas psychologiquement. Donc là, le diagnostic a été assez rapide, mais dans le même temps, je commençais à avoir vraiment des grosses douleurs le premier jour et parfois les deux premiers jours de mes règles. À tel point qu'il y a eu des fois en vacances où j'étais clouée au lit alors que j'étais dans un endroit paradisiaque en Grèce et que je souffrais le martyr. Et à cette époque-là, j'ai commencé à demander une exploration un peu de cette piste-là, au moins ne serait-ce qu'une échographie pour vérifier que tout allait bien au niveau de mon système reproducteur. Et en fait, ça m'a été refusé sur la base de j'ai pas systématiquement des règles atrocement douloureuses depuis l'adolescence. Et en fait, la question qu'on m'a posée, c'est: est-ce que vous avez déjà manqué le travail ou l'école à cause de vos règles? Et la réponse était non, mais en fait, tout simplement parce que les plus grosses crises que j'avais eues, bah, ça se passait toujours la nuit. J'ai quand même passé une nuit entière aux urgences, mais je suis allée travailler le lendemain parce que j'avais pas trop le choix. J'ai passé une journée entière alitée en vacances. Enfin voilà, il y a aussi cette question, elle est intéressante, et en même temps, basée un potentiel diagnostic uniquement sur ça, c'est extrêmement réducteur. Et du coup, on m'a complètement refusé, en fait, ne serait-ce que des examens basiques. Et donc, je suis repartie de là un peu traumatisée, en me disant, c'est étrange en plus, parce que c'était le même médecin qui avait été très à l'écoute pour le trouble dysphorique prémenstruel et qui avait complètement balayé en 3 secondes l'éventualité d'une endométriose sur la base d'une seule question. Et donc j'avais un petit peu laissé tomber, et c'était en 2020 à l'époque, donc voilà, il y avait aussi d'autres difficultés par ailleurs qui faisaient que c'était un peu compliqué d'insister pour avoir des rendez-vous médicaux, etc. Donc j'avais un peu laissé tomber, et finalement j'ai repris la pilule dans tous les cas suite à ça pour le trouble dysphorique prémenstruel, et j'ai eu une légère diminution de mes symptômes au tout début, mes symptômes digestifs en tout cas, mais j'avais toujours beaucoup de douleurs, etc. Ça a même continué à s'aggraver, et en fait en 2021, à l'été 2021, j'ai eu une infection urinaire, pour le coup une vraie infection. Et suite à ça, malgré le fait que l'infection ait été soignée, j'ai eu une vraie aggravation de mes troubles urinaires qui étaient présents depuis des années, mais qui n'étaient pas présents tout le temps et pas à cette intensité. Mais là, j'avais vraiment les symptômes d'une infection urinaire en permanence alors qu'elle avait été soignée. Et c'est là que ma généraliste, qui me suivait depuis plusieurs années et qui avait cherché avec moi, pour le coup, qui était de vraiment bonne volonté, qui m'avait cherché beaucoup de choses, qui m'avait adressé à beaucoup de spécialistes, qui m'avait fait tester pour des maladies auto-immunes, plein de choses comme ça, parce que j'avais plein de symptômes un peu éparpillés, des douleurs au dos, des troubles digestifs, des troubles urinaires, des douleurs pelviennes, etc. Et en fait, c'est elle qui a fini par dire, mais là, quand même, c'est bizarre. C'est bizarre, depuis toutes ces années, quand même là, les troubles urinaires qui s'aggravent, etc., la seule chose qu'on n'a pas vraiment testée, c'est l'endométriose. Et en fait, c'est elle qui a vraiment... C'est la seule qui a accepté de me faire une ordonnance pour ce fameux IRM pelvien. Et c'est grâce à elle, uniquement grâce à elle, que j'ai été diagnostiquée, parce qu'en fait, moi, j'avais pas vraiment baissé les bras, mais j'avais un peu abandonné cette piste-là. Et c'est vrai que même quand j'ai vu les résultats de l'IRM, j'ai douté. malgré ça, j'ai douté parce que je me suis dit oui, mais c'est pas cohérent. J'ai jamais vomi de douleur pendant mes règles. Je suis pas clouée au lit systématiquement. J'ai eu des grosses douleurs récemment, mais c'était à cause du stérilet. La pilule me soulage pas à 100%, etc. Donc, avec ma connaissance de la maladie de l'époque, qui pour moi était forcément ce que la plupart des gens pensent de l'endométriose, c'est-à-dire principalement des douleurs de règles et qui sont soulagées du coup quand on n'a pas les règles, pour moi c'était pas cohérent. Et donc là a commencé une autre errance, donc où j'étais lâchée, comme je disais, dans la nature avec ce diagnostic. Et en fait j'ai eu un premier rendez-vous avec un spécialiste de l'endométriose, un chirurgien gynécologue, qui m'a été conseillé par un membre de ma famille qui travaille dans le milieu médical. Donc c'était d'autant plus violent la façon dont s'est passée la consultation après. Et donc j'ai eu ce rendez-vous 3 mois après mon IRM, donc j'étais quand même contente du délai par rapport à ce que ça aurait été si j'avais été vue sans piston, entre guillemets, sans avoir un contact en commun. Et en fait, ce rendez-vous m'a absolument traumatisée. Depuis, j'ai développé une phobie totale des médecins et j'ai plus du tout confiance. Parce qu'en fait, je suis arrivée avec mon IRM et dans ma tête, un diagnostic, puisque pour moi, ça se voyait à l'imagerie. Et je m'étais renseignée et je savais que c'était quand même assez rare qu'on voit des choses pour l'endométriose à l'imagerie. Et donc, je suis arrivée avec plutôt une attente de prise en charge, de dire voilà, il y a cette imagerie, donc ce diagnostic qui est quasi évident, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et en fait ce médecin a remis complètement en question en fait l'imagerie, a dit tout simplement voilà, ah mais c'est des lésions trop petites, c'est impossible que ça vous fasse souffrir comme ça, alors qu'on sait très bien que il y a aucun lien entre la taille des lésions et l'intensité des symptômes. Et voilà, il m'a complètement décrédibilisée. Il a commencé à me parler à nouveau du psychologique, du stress, pour justifier mes douleurs au sacrum, mes douleurs sciatiques. Il m'a demandé si j'avais pas fait une chute de cheval, enfin des choses totalement aberrantes. Et ça m'a traumatisée en fait de voir que pour lui, c'était plus crédible que j'ai un ensemble de dysfonctionnements séparés, un intestin irritable, une chute de cheval qui m'avait fait des séquelles, une cystite interstitielle, un problème psychologique par ailleurs qui me créait de la fatigue et des douleurs, plutôt que une seule pathologie qui est quand même très fréquente et qui pourrait expliquer tout simplement tout ça malgré le fait d'avoir sous les yeux des preuves d'imagerie. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point le monde médical était violent, à quel point on n'était pas pris au sérieux en fait, puisque j'arrivais là avec cette imagerie en me disant pour une fois on va me prendre au sérieux, et même comme ça on m'a pas pris au sérieux. Et ça a été très très difficile, j'ai eu un épisode dépressif de plusieurs mois suite à ce rendez-vous, puisque par ailleurs j'avais eu moi cette IRM et j'avais été lâchée dans la nature, et donc pendant 3 mois je m'étais renseignée sur la pathologie, j'avais commencé à faire un travail d'acceptation, etc. Et là en fait on me renvoyait au même stade que plusieurs années avant, et ça a été extrêmement violent. Il y a eu de la violence aussi dans l'examen gynécologique, c'est-à-dire qu'il m'a fait énormément mal, et malgré le fait que je le dise qu'il me faisait mal, il n'a pas voulu s'arrêter. Et donc tout ça a été extrêmement compliqué, et j'ai mis du temps à accepter de revoir un médecin, et heureusement que j'ai persévéré, puisque je suis tombée ensuite sur un praticien très très à l'écoute et très très bienveillant, qui a confirmé le diagnostic en seulement quelques secondes, et qui m'a dit que même sans les imageries, sur la simple base des symptômes, il aurait pu confirmer mon diagnostic. Donc ça a été un soulagement, mais malheureusement, le mal était déjà fait. Et puis, au final, la prise en charge qui a suivi n'a pas... Ça faisait du bien d'être écoutée, mais en même temps, c'est pas ça qui m'a non plus permis de beaucoup avancer, puisque mes douleurs sont récalcitrantes, en fait, à la pilule. Donc elles sont constantes, elles sont pas forcément très très intenses, mais elles sont constantes. C'est pour ça que c'est difficile à traiter, puisque voilà, on me propose des antidouleurs de cheval, mais je vois pas d'intérêt à les prendre, puisque c'est pas des crises de douleurs très très intenses, c'est des douleurs à 6 sur 10 mais en permanence en fait. Donc c'est un peu compliqué de dire je vais prendre des antidouleurs très forts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la pilule, voilà, n'est pas d'une grande aide. Aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de troubles digestifs, de troubles urinaires. Donc, je m'aide avec l'ostéo, la kiné. Ça aide un petit peu, mais ma qualité de vie est quand même très détériorée. Et puis, il y a aussi d'autres pathologies qui viennent alourdir un peu ce tableau-là. En tout cas, maintenant, aujourd'hui, je ne fais plus du tout confiance aux médecins. Et c'est extrêmement angoissant. Et ça a aussi beaucoup impacté mon rapport avec les autres, avec mon entourage, parce que les personnes qui n'ont pas eu ce parcours d'errance médicale, qui n'ont pas eu ce parcours de pathologie chronique et qui n'ont pas eu en fait l'occasion de voir à quel point la médecine pouvait être violente, à quel point la médecine pouvait être perdue tout simplement et impuissante face aux souffrances physiques, eux sont toujours dans le rapport que j'avais moi avant mon errance, avant d'être malade, avec la médecine, c'est-à-dire le rapport qu'on peut avoir pour sa voiture avec un garagiste, c'est-à-dire s'il y a un problème, j'irai voir le spécialiste et puis il va régler le problème et tout ira mieux. Et donc il y a des réactions parfois d'entourage où on voit cette incompréhension et on peut... Même en leur expliquant, ils peuvent pas comprendre. Et voilà, tout simplement, par exemple, « Ah, mais t'es allé chez le médecin, donc c'est bon, ça va mieux. Ah, il t'a donné un traitement, mais donc ça va aller mieux maintenant. » Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a pas mal d'impatience aussi, parfois, du coup, de la part de certains. Dire « Bon, mais là, c'est bon, maintenant, tu vas pas mieux. T'as testé plein de traitements, t'as vu plein de médecins, ça devrait aller mieux, pourquoi ça va pas mieux, etc. » L'autre chose qui est assez difficile aussi à comprendre, c'est la fatigue. Donc je souffre d'une fatigue, d'un épuisement qui est absolument écrasant, qui est pour moi beaucoup plus invalidant que les douleurs que j'ai en tout cas, et qui est fait que j'ai dû arrêter de travailler. Donc ça, c'est très dur aussi psychologiquement et même socialement. Et dans mon entourage, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc j'ai été étiquetée dépressive en fait, et on n'arrête pas de me dire... Mais tu devrais sortir de chez toi, tu devrais travailler, ça te ferait du bien au moral, etc. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que justement, mon moral ne va pas bien parce que je ne peux pas sortir, mais je ne peux pas sortir parce que mon corps ne me le permet pas. Et ils n'arrivent pas à comprendre en fait qu'on peut être fatigué au point qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus sortir de chez soi, qu'on ne peut plus travailler. Et donc, ils ont des réflexions qui sont complètement en décalage en fait... Mais pourquoi t'es fatiguée? Tu dors pas la nuit, etc. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un niveau de fatigue tellement intense où le corps a épuisé en fait toutes ses dépenses d'énergie que même en dormant, on n'est pas mieux. En fait, dormir ne sert plus à rien. Et je pense que c'est vraiment ça le plus difficile à comprendre pour l'entourage. Et aussi le fait que tout soit centré sur la maladie, c'est quelque chose qu'on me reproche souvent. Ah oui, mais tu penses qu'à ça, tu parles que ça, toute ta vie est centrée là-dessus, si tu te concentrais moins là-dessus, ça irait, etc. Et ils n'arrivent pas à en comprendre en fait que quand on est en souffrance physiquement, chaque minute de chaque journée, tous les jours, sans interruption, c'est impossible en fait de ne pas y penser. Et c'est impossible de ne pas adapter sa vie autour de ça. Parce que c'est justement ce qu'on nous conseille dans le monde médical. On nous dit adaptez votre régime alimentaire, faites attention, faites des activités adaptées, etc. Et donc, je suis obligée en fait d'adapter ma vie. Parce que sinon, si j'essaye de vivre normalement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en fait, ça a empiré vraiment considérablement mon état de santé. Et donc, c'est compliqué de trouver ce juste milieu entre essayer... d'être normal, entre guillemets, au maximum, d'avoir une vie la plus normale possible pour le moral, tout simplement, et puis pour ne pas se retrouver complètement isolé, pour essayer de garder un semblant de vie sociale, et en même temps, être à l'écoute de son corps, de ses symptômes, de ses limites, et s'adapter à ses nouvelles limites. Donc c'est très compliqué, et pour moi, le manque de reconnaissance de la société joue aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus travailler... Je suis en cours de démarche pour obtenir une reconnaissance officielle de cette situation et pouvoir avoir droit à des aides financières. Et je sais que ça va être un parcours du combattant, je sais que ça va être très très dur. On sait que l'ALD est extrêmement difficile à obtenir dans le cas de l'endométriose. On sait que Pour les dossiers MDPH, c'est pareil, c'est très aléatoire, mais c'est souvent refusé. Je vais faire une demande d'invalidité, mais c'est pareil, c'est des choses qui sont pas du tout systématiques et qui sont même très difficiles à obtenir. Et en fait, il faut se battre. Il faut se battre constamment pour avoir une reconnaissance de son état, de la part des médecins déjà, de la part des proches et de la part aussi de la société. Et en fait, c'est épuisant. Et en fait, pour terminer ce témoignage, ce que je voudrais surtout souligner, c'est la double peine en fait qu'on vit en tant que personne atteinte de maladie chronique, et ça concerne l'endométriose, mais pas que. C'est qu'en fait, on a d'un côté la souffrance de la maladie qui est là, qui est constante, les douleurs, le deuil qu'on doit faire de nos projets, de notre avenir, de notre vie qui pourra plus jamais être la même, le fait qu'il n'y ait pas de traitement souvent, voilà, donc on est dans une forme d'impuissance, de désespoir, la fatigue, et d'un autre côté, cette perception de la société, cet isolement, cette perte de vie sociale, cette incompréhension des proches, cette maladresse, ce rejet parfois de la part des autres personnes, cette errance médicale, cette violence dans la prise en charge médicale souvent, et ce manque de reconnaissance au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, de devoir se battre constamment, se justifier en permanence. Et donc c'est vraiment cette idée qui reste en moi, cette idée de double peine. Et si on pouvait déjà soulager cet aspect social, cet aspect de prise en charge médicale, nous prendre au sérieux, nous écouter, être bienveillant, nous aider, faire en sorte qu'on n'ait pas à se battre pour obtenir une reconnaissance, faire en sorte qu'on puisse sereinement avoir des aides pour pouvoir nous soigner, pour pouvoir travailler de manière adaptée pour celles qui le peuvent encore mais qui ont besoin d'adaptation, sans avoir à se battre, sans avoir à montrer patte blanche constamment, ça allégerait déjà beaucoup beaucoup notre vécu. Donc même si pour l'instant il n'y a pas de traitement, même si pour l'instant c'est des maladies qui sont difficiles à prendre en charge, on pourrait déjà faire beaucoup beaucoup de choses pour que le vécu des personnes qui sont atteintes d'endométriose soit beaucoup beaucoup moins difficile. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de travailler sur ça, et bien sûr en parallèle de travailler sur la recherche pour une meilleure prise en charge médicale et espérer un jour avoir tout simplement un traitement et des choses qui pourraient nous soulager vraiment. Voilà, ben, je remercie toutes les personnes qui m'ont écoutée jusqu'au bout, et pour celles qui se battent au quotidien, je vous souhaite tout le courage du monde et je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'énergie positive, et voilà, on est des battantes et on va y arriver.